Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Comme tous les ans, depuis 1979, le Secours Populaire organise à partir du 15 août ses journées des oubliés des vacances dans tout le pays. Le 22 août, par exemple, ils seront 5000 enfants d'Île-de-France à profiter de la plage et des vagues à Cabourg dans le Calvados. Le Secours Populaire fait partie de ces associations qui continuent de faire vivre une utopie sociale née dans les années 50, celle des vacances pour tous. Ce fut la grande époque des villages vacances, des colos, des séjours organisés par les syndicats ou les comités d'entreprise, une révolution dans la pratique du loisir jusqu'alors réservée à une petite élite. Le tourisme fut un acquis social. Mais que reste-t-il aujourd'hui du tourisme populaire et de son ambition? Depuis une trentaine d'années, les chiffres ne varient guère. 40% des Français restent chez eux durant leur congé, et ce, malgré le droit aux vacances inscrit dans la loi. Alors la plage est-elle encore accessible pour tous? Sylvain Patieux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire à l'université Paris 8. Vous êtes beaucoup intéressé à la question de l'histoire du tourisme populaire. Vous êtes auteur notamment de Tourisme et travail, de l'éducation populaire au secteur marchand. C'était aux presses de Sciences Po en 2009. Et puis je signale que vous êtes aussi écrivain de fiction. Votre dernier roman s'intitule Que celui qui a soif vienne. C'est un roman de pirate édité par les éditions du Rouergue en 2016. Et c'est peut-être un roman à emporter sur la plage. Notre deuxième invité est au téléphone. Il s'agit de Rodolphe Christin. Bonsoir. Bonsoir Rodolphe Christin, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes bien
oui,
avec
oui,
nous par téléphone?
Je vous entends, oui.
Très bien, vous êtes sociologue, vous êtes auteur notamment du manuel de l'antitourisme paru aux éditions Éco-Société en 2018 et puis aussi de L'usure du monde, critique de la déraison touristique. C'était aux éditions L'Échappée en 2014. Et puis dernier invité, Jean-Carl Deschamps, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général adjoint de la Ligue de l'enseignement et vice-président de la JPA. La JPA, c'est la jeunesse au plein air. Alors Jean-Carl Deschamps, je voulais vous poser la première question. J'ai évoqué le secours populaire qui non seulement organise des journées pour faire partir les enfants chaque année, mais aussi qui dénonce chaque année cette forte proportion de Français qui ne peuvent pas partir en vacances, 40% selon le Crédoc, et c'est un chiffre qui tend, on va dire, à stagner, voire même à augmenter un peu ces dernières années. Est-ce que c'est une inquiétude, celle du secours populaire, que vous partagez?
Bien sûr, c'est une inquiétude. Le secours populaire, les camarades du secours populaire m'en excuseront, mais a bien sûr tout à fait raison d'attirer l'attention là-dessus. C'est une inquiétude parce que ça traduit une situation de société qui n'est pas bonne, alors que, somme toute, malgré de grandes difficultés que tout le monde connaît, la France est quand même l'un des pays les plus riches au monde, où la richesse est la plus forte et où le niveau culturel est aussi un élément intéressant. Donc ça traduit une progression des inégalités. C'est l'un des marqueurs de la progression des inégalités et on pourra y revenir peut-être au cours de notre conversation.
Rodolphe Christin, est-ce que vous partagez vous aussi cette inquiétude ou est-ce que vous vous dites finalement on ne devrait pas faire du départ en vacances ni un impératif ni un objectif de société?
Je pense que être en vacances et partir en vacances ne sont pas forcément la même chose parce qu'on peut être en vacances sans forcément partir. Mais l'émancipation qui a été liée à juste titre au fait de pouvoir partir et de ne plus réserver cette pratique du déplacement à des fins de découverte à la seule aristocratie qui historiquement en bénéficiait, a été certes un acquis social, mais aujourd'hui je crois que le départ en vacances est devenu une norme de comportement. Et moi j'ai écrit ces livres-là pour justement remettre en question cette norme de comportement-là et pour réfléchir un peu sur comment est-ce qu'on pourrait être en vacances en restant chez soi, ou en tout cas dans la périphérie de notre vie quotidienne, avec peut-être un aspect aussi politique derrière, c'est est-ce que notre vie quotidienne est devenue si invivable qu'on soit obligé de partir en vacances pour tenir le coup le restant de l'année?
Je termine le tour de table avec la même question pour vous, Sylvain Patieu. Est-ce que vous situez plutôt dans ceux qui s'inquiètent d'une société française où 40% de la population ne peut pas partir en vacances, ou de ceux, peut-être plus comme Rodolphe Christin, qui disent ça traduit aussi une certaine norme de comportement, cette peut-être injonction à partir en vacances?
Il y a sans doute du vrai dans les deux. Après, c'est vrai que ça témoigne quand même surtout des inégalités. Ça fait pas longtemps que les milieux populaires partent en vacances, qu'ils ont cet accès aux loisirs.
Parce les années 50, 60.
Alors voilà, parce qu'on parle beaucoup de 36 en France, c'est vrai que c'est une date importante, les congés payés avec les grèves de 36, les occupations d'usines et tout ça, c'était vraiment important. Mais pour partir en vacances, il suffit pas d'avoir une législation qui le permet, il faut aussi avoir des moyens financiers qui le permettent. Et tout ce qui s'est constitué après 45, avec le programme du Conseil national de la résistance, avec la sécurité sociale, avec les retraites ensuite, avec aussi la société salariale, comme disait le sociologue Robert Castel, qui s'est imposé dans la société française, a permis, et puis le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de chômage, a permis que les milieux populaires se consacrent aussi une partie de leur argent et de leur temps aux vacances. Alors bien sûr, après, il y a la question du contenu qu'on met à ces vacances. C'est une question légitime. Mais disons que je pense qu'il y a une volonté de distinction dans le tourisme, dans les vacances. Et après tout, les milieux populaires ont aussi le droit d'accéder à ça.
Jean-Carl Deschamps, comment est-ce qu'on explique aujourd'hui, je reviens encore sur quand même ces 40% donc de personnes qui n'ont pas les moyens ou pas la possibilité, les explications sont multiples, mais justement, comment on explique les freins au départ en vacances aujourd'hui en France ?
On les explique d'abord par l'aspect financier, commençons par cela, et entre autres par la manière dont est redistribuée la richesse en France. Je suis tout à fait d'accord au passage sur ce qui a été dit au départ, on peut être en vacances sans partir. Mais encore faut-il en avoir le choix. Si c'est un choix de rester chez soi, un choix politique, un choix personnel, un choix familial, un choix de réalisation individuelle, il n'y a pas de sujet. Mais si c'est une obligation, ça devient une assignation à rester à domicile, ce qui est tout à fait différent. Et ce que je remarque, c'est que ce que les chiffres traduisent, c'est qu'il y a à la fois une stagnation des départs, mais en plus, il y a des grandes disparités qui s'accentuent. C'est-à-dire que il y a une population qui part plus souvent, moins longtemps à chaque fois, mais qui part plus souvent, et puis une population qui part encore moins souvent qu'elle ne pouvait partir avant. Et c'est là que la question de la redistribution des richesses en France se pose, et notamment des politiques publiques d'accompagnement de ces personnes qui sont pas forcément des personnes en difficulté sociale au sens large, mais qui sont souvent des personnes en difficulté économique. C'est quand même pas tout à fait anodin de constater qu'à la fois le nombre de chômeurs augmente, que la difficulté et la précarité augmentent, et qu'en même temps, les difficultés à pouvoir accéder à des droits qui certes ne sont pas des droits vitaux, au sens où on ne peut pas vivre si on n'a pas accès à l'eau, on peut vivre si on ne part pas en vacances, c'est vrai, mais si ces accès-là ne sont plus possibles, ce sont des marqueurs de société extrêmement importants, notamment sur la notion de redistribution.
Rodolphe Christin, sur ce que soulève Jean-Carl Deschamps, sur cette notion de choix, vous dites on peut très bien choisir de passer ses vacances chez soi, pas forcément de partir, mais justement, comment être sûr que ce soit un choix et que ce ne soit pas subi ?
Non, mais je suis parfaitement d'accord avec ça. Hein. Le fait de rester chez soi devrait être peut-être plus souvent un choix, justement, et non pas une obligation. Après, ce qu'on constate aussi, ne serait-ce qu'en vous écoutant aussi, parler, là, discuter, c'est que la question du voyage, de la découverte, parce que c'est aussi ça, moi, qui m'intéresse, c'est qu'on se résume finalement à une question d'accès à la société de consommation. Or, si on approfondit un peu la critique, est-ce que le voyage finalement et le voyage qui a été porté au début de cette émancipation que furent l'accès au déplacement, l'accès à la découverte d'autres pays, d'autres régions de France même, où il y avait une dimension de connaissance, est-ce que finalement cette dimension de connaissance-là, aujourd'hui, ne se réduit pas peut-être sans doute trop à une question lié à l'accès à une consommation de loisirs touristiques, parce que justement l'industrie du tourisme aujourd'hui, parce que c'est quand même une industrie, la première industrie, et une industrie qui, semble-t-il, est promise à un développement conséquent dans les années qui viennent, si on en croit l'Organisation mondiale du tourisme, en fait on est dans une logique de consommation. C'est aussi ça que je critique. Finalement, le tourisme est devenu une industrie comme les autres, qui continue malgré tout de bénéficier d'une connotation éthique, voire même morale, qui moi me pose problème et que j'essaie de remettre en question justement.
Sylvain Patieu, vous vouliez réagir tout à l'heure, mais voilà, et précisément sur ce que vient de dire Rodolphe Christin, le tourisme, une industrie.
Alors, il y a toujours eu une volonté, en fait, de présenter le tourisme comme quelque chose qui ne doit pas être inutile, comme quelque chose qui ne doit pas être un loisir inutile. Donc, c'était le grand tour des aristocrates qui allaient découvrir l'Europe. Et c'était aussi l'ambition des militants d'éducation populaire de faire en sorte que ce soit un tourisme instructif, un tourisme pédagogique et tout ça. Mais il y a aussi une dimension qui a toujours été présente, c'est la possibilité, notamment pour les personnes des milieux populaires, mais pas seulement, d'échapper d'une certaine manière à cette moralisation du tourisme et d'échapper au cadre qui leur a été fixé pour simplement avoir un usage du tourisme qui pouvait être très varié, hein, mais qui pouvait être aussi un usage ludique. Et c'est vrai que je pense qu'il faut faire attention à pas forcément plaquer un discours qui serait un discours avec une volonté de pédagogie sur des aspirations qui peuvent être très diverses et bien sûr qu'il peut y avoir une part de culture dans les vacances et tout ça, mais qui peut dire que quand il part en vacances, il a pas aussi envie des fois de ne rien faire et de simplement se reposer. Et pourquoi est-ce que ça serait pas accessible à tout le monde? Bon, moi, quand je regarde un match de foot, je regarde un match de foot parce que ça me plaît, parce que j'aime bien le foot. Je vais pas essayer d'y trouver des justifications idéologiques ou politiques. Je dirais que c'est un peu pareil pour le tourisme. Il peut y avoir mille raisons de vouloir voyager. On peut rentrer chez soi, on peut dans son pays d'origine ou dans sa région d'origine, on peut avoir envie d'aller à la plage ou d'aller à la montagne. Et si on a aussi envie d'en faire quelque chose de culturel, tant mieux. Si on peut, tant que possible, ne pas tomber complètement dans la consommation, tant mieux aussi. Mais attention à ne pas vouloir, de façon forcenée, moraliser le tourisme.
Jean-Carl Deschamps.
Oui, l'industrie du tourisme a effectivement, comme beaucoup d'industries, ce déplacement de son pôle d'intérêt. Mais il y a des poches de résistance, et vous les avez citées tout de suite, entre autres l'éducation populaire. Je suis l'un de ceux qui, aujourd'hui, portent la voix de l'éducation populaire dans ce domaine, est une poche de résistance. Le tourisme, je partage totalement ce que vous venez de dire, c'est à la fois le droit de breaker, le droit de couper, le droit de se ressourcer, mais c'est aussi, et dans ce droit de se ressourcer, on peut tout mettre, y compris le droit de ne rien faire. C'était un grand débat pédagogique dans les années 70, d'ailleurs. A-t-on dans les colonies de vacances, par exemple, le droit de laisser les enfants ne rien faire? Donc c'est un sujet qui redevient à la mode, effectivement. Ça fait partie du ressourcement.
Ce qui n'est pas évident, pardon, parce que dans la présentation de l'éducation, de la vision du tourisme par l'éducation populaire, il y a beaucoup l'idée qu'il faut faire quelque chose de ce temps de loisir et que l'oisiveté n'est pas forcément permis, qu'on doit se cultiver, qu'on doit s'émanciper, qu'on doit rencontrer les autres. Est-ce que l'éducation... Vous dites que c'est un débat qui a existé, mais est-ce qu'il a été mis en place, ce droit à l'oisiveté?
Les premiers voyages organisés touristiques, c'était des voyages organisés contre l'alcoolisme. C'est Cook, c'était un pasteur qui venait des ligues de tempérance et il organisait des voyages pour lutter contre l'alcoolisme. Donc il y avait cette idée-là qu'il fallait faire attention aux loisirs des classes populaires, que ça soit pas quelque chose qui les amène vers le vice ou vers le socialisme de danger qui était considéré très grave à l'époque.
Bon, qu'est-ce qui reste un peu de cette moralisation, Jean-Carl Deschamps, dans la vision du tourisme par l'éducation populaire?
Je ne sais pas si le droit à l'oisiveté est finalement un péché. Allons-vous des choses? Je ne le crois pas. Je crois que ce que défend l'éducation populaire, c'est un tourisme de sens. Mais le sens est multiple. Ça peut être le droit à la découverte de l'ailleurs, d'autres cultures, d'autres pays, d'autres paysages. Mais ça peut être, comme vous le disiez tout à l'heure, le droit au retour chez soi, dans sa propre culture. Mais pas forcément, quand on dit cela, on imagine forcément les Français d'origine étrangère qui retournent chez eux. Mais moi, je suis normand. Quand je quitte Paris pour rentrer en Normandie, je retourne chez moi.
Moi, je suis provençal.
Et on a tous des défauts, vous voyez. Mais, et en l'occurrence, on a besoin de ce ressourcement aussi, de retrouver nos paysages, etc. Donc, c'est le tourisme de sens. Alors, bien évidemment, lorsqu'on parle de séjour éducatif comme des colonies, on va avoir un sens et une pédagogie pour le faire, puisque ce sont des structures éducatives. Lorsqu'on parle de village de vacances, c'est un peu différent. Mais il y a quand même du sens à mettre, et on ne parle pas de sens à mettre exclusivement pour les classes les plus en difficulté, ou les personnes les plus fragiles. On parle de sens à mettre au sens général, excusez-moi cette renonce. Par exemple, dans cette société où finalement les choses deviennent de plus en plus communautaristes dans la démarche, où les gens se connaissent de moins en moins. Eh bien, ces villages de vacances sont des lieux qui se donnent comme objectif de faire se rencontrer les personnes qui viennent de mondes différents. On peut le dire comme ça, malheureusement, maintenant, même dans le même pays. C'est un des sens, simplement, que de pouvoir côtoyer des personnes qu'on ne côtoierait pas dans un autre cadre ou dans son cadre de quotidien, du quotidien. C'est aussi cela. Donc, il n'y a pas forcément d'obligation à l'éducation ou aux démarches éducatives. Il y a simplement un contenu du vivre ensemble et du faire ensemble, ce qui est aussi un élément extrêmement important.
Rodolphe Christin.
Oui, moi je considère aussi que l'oisiveté est un acte extrêmement important, hein, parce que c'est quand on est oisif notamment qu'on pense. Mais pour être oisif, on peut tout à fait rester chez soi, on n'est pas obligé de partir sur la plage, on peut être tout à fait oisif dans sa chambre. Donc c'est pas le seul motif, enfin c'est pas un motif aujourd'hui très déterminant de la pratique touristique, parce que même quand on va sur la plage, on consomme énormément. Et aujourd'hui, les infrastructures qu'on crée pour accueillir des masses de touristes toujours plus importantes sont des structures qui ont sans doute fait beaucoup évoluer la notion de village de vacances, qui pouvait avoir une connotation au départ d'éducation populaire. Mais aujourd'hui, le village de vacances, c'est un lieu où on rencontre des gens qui nous ressemblent, qui ont des modes de vie qui nous ressemblent, et où l'indigène, entre guillemets, a peu de droits d'entrée, sinon comme un prestataire de service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on discute...
Donc il y a de l'entre-soi, vous voulez dire, hein, vous voulez dire qu'il y a de l'entre-soi, finalement.
Il y a de l'entre-soi, et tout un concept aujourd'hui du tourisme, c'est de générer de l'entre-soi, notamment par des lieux qui ont vocation à contenir les flux touristiques, y compris parfois pour des motifs de lutte contre les nuisances du tourisme qui deviennent dans certains lieux, dans certains endroits, dans certaines villes, préjudiciables pour le développement de l'activité.
Vous vouliez réagir. Alors Sylvain Patieu, puis ensuite Jean-Carl Deschamps.
Oui, ben, je suis bien d'accord sur ces histoires d'entre-soi. Alors, bon, c'est quand même quelque chose qui est constitutif du tourisme, hein, cet entre-soi. C'est-à-dire qu'au départ, les aristocrates ou les grands bourgeois, par exemple, au 19e siècle, qui partent, c'est pour reconstituer la société qu'ils ont mondaine, qu'ils ont en ville, ils la reconstituent au bord de la mer. Donc ça y est dès le début. Mais c'est vrai que il me semble qu'il y avait peut-être plus de brassage dans les années 60 ou dans les années 70, et qu'aujourd'hui, il peut y avoir un phénomène d'une certaine manière de ségrégation qui ne concerne pas que le tourisme, qui est finalement, le tourisme, c'est un symptôme de ça. Mais par exemple, je donne un exemple, hein, il y a une nouvelle vogue, il y a une chercheuse qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Alizée Delpierre, qui a travaillé sur le tourisme humanitaire. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui partent faire du tourisme humanitaire, donc dit comme ça, ça paraît très bien, mais en fait, c'est du tourisme très cher, qui n'est pas très humanitaire, en fait, ils se rendent compte une fois sur place qu'on leur demande pas de faire beaucoup d'humanitaire, et par contre, qui coûte très cher et qui est très discriminant socialement. Et ça fait une ligne de plus sur le CV. Hein, vous avez un CV après pour travailler dans une grande entreprise, vous dites j'ai fait 2 mois dans l'humanitaire, c'est très bien. Et donc voilà, on a vraiment des formes de tourisme qui sont très distinctives, qui sont très dans l'entre-soi. Sur les centres de vacances, peut-être qu'un des meilleurs moyens, par exemple, pour avoir du brassage dans les centres de vacances, c'est les comités d'entreprise qui font partir tous les salariés d'une entreprise dans des centres assez divers. Mais c'est vrai que ça devient difficile. Par exemple, la CCAS, qui est un des organismes qui reste encore vivant et qui essaye encore de déployer une politique dans ce sens-là, c'est difficile. C'est difficile d'arriver à faire des activités culturelles dans les centres, etc.
Alors au-delà de cet exemple peut-être un peu poussé, effectivement, du tourisme humanitaire, Jean-Carl Deschamps, comment est-ce que vous voyez cette question de la mixité sociale? Vous dites les centres de vacances permettent une mixité sociale, mais c'est vrai qu'en réalité, en fait, on peut s'apercevoir qu'il ne fait qu'entretenir un entre-soi.
Alors, peut-être juste avant de répondre à votre question, si vous me permettez, je voudrais revenir juste sur la question de la surpopulation touristique dans certains lieux, pour signaler que c'est l'un des axes de travail du tourisme social et associatif, je n'aime pas trop ce terme-là, mais enfin, voilà, tourisme organisé par les acteurs non lucratifs, au sens qu'ils ne gagnent pas d'argent avec. C'est l'un des axes de travail, c'est pour ça que 40% de nos villages et de nos centres de vacances sont aujourd'hui dans des communes rurales qui ne sont pas des communes touristiques. C'est pas rien, 40% d'un parc. La JPA défend cet axe très fortement, justement, de pouvoir implanter une activité touristique là où il n'y a plus d'activité. Et j'ai en tête des petits villages, je pense par exemple à Donvix, qui est l'un de ceux-là, qui aujourd'hui ont une seule activité touristique réelle, qui est celle du village de vacances. Donc il y a cet objectif-là. Sur la mixité sociale, le sujet est extrêmement important pour nous, puisque effectivement, les structures d'éducation populaire comme les nôtres, comme la Ligue de l'enseignement, qui se sont investies dans le tourisme social, l'ont d'abord fait pour générer de la mixité. L'objectif, c'est d'abord cela. C'est de faire notamment, puisque nous, on a commencé par des colos, c'est de faire que dans les colos, il y a maintenant presque un siècle, les gamins de tout milieu puissent se croiser et puissent faire ensemble. C'est le seul outil d'éducation par la vie collective, la colo, qui existe en France encore aujourd'hui et qui soit encore celui d'un lieu de brassage. Évidemment, au fur et à mesure des années, la mixité y a perdu. C'est une évidence. Aujourd'hui, nous avons moins de mixité sociale dans les colos, je le fais d'une manière très généraliste, à la SERP, qu'il y a maintenant peut-être 10, 15 ou 20 ans. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les politiques publiques existent, elles aussi, en termes d'accompagnement, de moins en moins. Dans les années 50, une colonie de vacances s'était aidée pour les classes les plus en difficulté à hauteur de 90% du coût. On est loin de ces sommes-là aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas de revendiquer que de l'argent, il ne s'agit pas non plus de dire qu'il n'y a plus de mixité dans les colos, ça n'est pas vrai, il y en a. Mais il s'agit de dire que la colonie et les organisateurs associatifs, l'éduc-pop, ne peuvent pas faire les politiques publiques. Ils sont ceux qui organisent les activités, qui mettent du contenu, mais les politiques publiques, et notamment la réaffectation des sommes, la redistribution des richesses françaises, ça relève de la politique publique portée par les gouvernements, par les acteurs des caisses d'allocation familiale, qui font un très gros travail là-dessus, ou par les collectivités locales. Le comité d'entreprise est un outil extrêmement important pour cela. Et on doit beaucoup au développement du droit d'accès aux vacances au comité d'entreprise. Mais vous avez raison de dire qu'ils ont de plus en plus de difficultés. D'abord parce que 50% des ouvriers en France, et des salariés en France, pardon, n'ont pas de comité d'entreprise. Ce sont des entreprises trop petites. Et ensuite parce qu'il y a un nombre de chômeurs croissant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, entre presque 60% des Français sont exclus de l'intervention des comités d'entreprise, qui eux-mêmes font face, c'est le cas à la CCAS par exemple, à des aspects générationnels et à un vieillissement de la population qui fait qu'il y a aussi de moins en moins d'enfants dans l'entreprise elle-même.
Vous parlez de la mixité sociale, Jean-Carl Deschamps. Est-ce que, je mets peut-être un petit peu les pieds dans le plat, mais est-ce qu'on peut imaginer de questionner même la mixité sociale comme une évidence, comme quelque chose vers lequel il faut aller, de se dire pourquoi est-ce que la mixité sociale devrait être un objectif?
Mais simplement parce que la société française est faite de mixité. Si nous faisions, on a parlé tout à l'heure de nos origines entre la Provence et la Normandie, sans remonter au millénaire précédent, il y a de grandes différences. La société française, c'est la société de la mixité. La République française est construite sur la reconnaissance de la place égale donnée à chacun d'entre nous. Encore faut-il que les droits inscrits sur le papier soient des droits réels, ce que vous souleviez tout à l'heure en parlant du droit aux vacances. Donc, ce que nous pourrions faire, c'est peut-être nous questionner sur l'idée de s'il n'y avait plus de mixité sociale en France, comment cela se passerait-il ?
Rodolphe Gristin, sur cette question.
Sur comment est-ce que ça se passerait s'il n'y avait plus de mixité sociale, c'est une vaste question. Non, simplement, moi, je voudrais aussi revenir sur, on entend souvent par mixité sociale le fait de mixer les catégories socio-professionnelles, mais il y a aussi dans la question du tourisme, il y a un aspect de découverte interculturelle. Et lorsqu'on parle de centres de vacances, lorsqu'on parle de... Je glisse insensiblement vers les formes plus industrielles de villages de vacances, c'est-à-dire qui vont jusqu'au tout inclus, quoi. C'est-à-dire où on a des gens qui sont regroupés les uns à côté des autres dans des espaces qui sont complètement dédiés à leurs pratiques touristiques, et où finalement l'autre culturel, c'est-à-dire celui qu'on est supposé aller visiter lorsqu'on passe une frontière, mais même lorsqu'on va du sud de la France vers le nord de la France, cet autre culturel est évacué de la question touristique. Et personnellement, ça me fait un peu réagir, parce que dans l'idée de tourisme, il y a l'idée de voyage, et dans cette idée de voyage, il y a quand même l'idée qui me paraît intéressante, qui est la notion d'exploration, de découverte d'autres cultures, de découverte d'autres normes, et finalement aussi d'émancipation par rapport aux normes qui sont celles de notre quotidien et dont on s'aperçoit qu'elles peuvent avoir un caractère relatif lorsqu'on s'aperçoit que d'autres gens ailleurs vivent autrement. Et cet aspect-là, je pense, a été évacuée, est en passe d'être évacuée de la question touristique, et j'ai presque envie de dire tourisme populaire ou pas.
France Culture, du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
Madame, avec élan ou sans élan ? Avec élan. Alors voilà. Hop. Oh !
J'ai passé 38 ans de bonheur. Et j'ai dit à mes géos, quand j'ai fait ma dernière conférence en leur disant « Je quitte le club, c'est fini, les enfants. S'il y avait une vie à recommencer, je referais exactement la même chose. »
En enchaînant les fêtes délirantes dans des sites paradisiaques, Jean-Pierre et ses amis du club ont fait la révolution. Celle des vacances en communauté, avec ses rites et ses fameux signes démentiels, aujourd'hui connus de tous.
C'était une grande colonie de vacances pour adultes.
Ah, c'est le soleil, la piscine, la folie, c'est tout ça.
Nous, les gens qui ont fait le club, c'est comme avoir fait la Légion, on se reconnaît, on est des francs-maçons de la fête, voilà.
Alors le club, il s'agit du Club Med, évidemment c'était un extrait d'un reportage pour complément d'enquête sur France 2 diffusé en mars 2017. Sylvain Patieu, là on est dans un modèle où s'amuser, faire la fête, c'est le cœur du projet, c'est le cœur de l'objectif. On est peut-être à l'opposé du modèle d'éducation, d'émancipation porté par l'éducation populaire. Et pourtant, ce modèle du Club Med, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir dominant aujourd'hui ?
Bah là, on tombe en plein dans ce que dénonce à juste titre Rodolphe Christin. Est-ce qu'il est en train de devenir dominant ? Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas envie, quand ils partent en vacances non plus, d'aller dans des centres. Il y a beaucoup de gens qui partent en famille et qui partent par leurs propres moyens. Simplement, dans les centres comme le Club Med, je dirais pas que le point principal c'est l'amusement. Il y a des travaux de Bertrand Réau par exemple là-dessus. Il montre comment en fait le point principal de ces vacances c'est de créer des réseaux et de les renforcer. Et on est encore là dans cette histoire d'entre-soi, c'est-à-dire qu'on a des. Aujourd'hui le Club Med c'est quelque chose qui s'adresse surtout à des personnes des classes supérieures, parce que ça coûte cher, parce que voilà, c'est aller dans des pays assez lointains. Et donc la volonté de ceux qui partent là-bas, c'est bien sûr de s'amuser, mais c'est aussi de rester avec des personnes de la même catégorie. Et parfois même de créer en vacances des relations qui serviront après pour le travail. Donc c'est sûr qu'on est assez loin des idéaux d'éducation populaire. Cela dit, dans les centres de vacances, bon, moi j'ai travaillé en tant qu'historien sur les centres de vacances, notamment de Tourisme et Travail, qui était une association liée à la CGT, qui était très importante, qui avait des ambitions éducatives très importantes et sans doute très positives, mais qui quand même avait beaucoup de mal à les mettre en œuvre, parce que il y avait des fois des moments où ils arrivaient plus facilement à faire des jeux apéritifs, exactement comme il peut y avoir au Club Med, qu'à
convaincre les gens à suivre une conférence,
voilà,
par exemple,
exactement.
Jean-Carl Deschamps.
Oui, le Club Med est une grande structure, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais là, pour le coup, si on parle de mixité sociale, on ne peut pas parler du Club Med, ou alors c'est un contre-exemple. Ça vient d'être
effectivement, à titre de contre-exemple.
Dans l'entre-soi. Alors, ça a sûrement beaucoup évolué, hein, entre les années de ma naissance, une cinquantaine d'années et aujourd'hui, mais en tout cas, on est vraiment dans les vacances entre-soi, on est dans les vacances du carnet d'adresse qui va effectivement pouvoir créditer ensuite des contacts. La question de l'entre-soi dans les villages de vacances, et notamment dans les villages de vacances du tourisme social et associatif, je le répète, est une question que nous abordons en permanence. C'est un souci, un sujet, un objectif pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on réussit. Mais dans les VVF, par exemple, qui est une autre marque très connue et qui est une marque associative, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une ouverture et un contact qu'il ne peut pas y avoir dans d'autres structures du type Club Med. C'est aussi le cas à la Ligue, à Vacances Passion, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que notre objectif, c'est à la fois de faire que les gens puissent se rencontrer, qu'ils puissent croiser des gens qu'ils ne croiseraient pas autrement, mais c'est aussi, je voudrais revenir, qu'ils puissent rencontrer le terroir où ils sont et les habitants du terroir où ils sont. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a eu pendant un certain temps une espèce de rupture qui s'organisait petit à petit entre les villages de vacances et le territoire où ils sont. depuis une dizaine d'années, nous avons tous beaucoup travaillé là-dessus, avec une vraie volonté de laisser de la place à la découverte de l'environnement et à la découverte de non seulement de l'environnement en termes géographiques, mais aussi de la culture, de l'alimentation, la partie gastronomie, et puis également de toutes les parties un peu autres. Je pense par exemple aux parcs naturels régionaux qui existent, qui sont des territoires de projets extrêmement intéressants avec lesquels les villages de vacances travaillent beaucoup. Donc c'est une vraie force pour nos villages de vacances et une vraie volonté d'essayer de créer ces contacts et de faire que des personnes puissent dépasser leurs a priori. Simplement, je voudrais revenir sur un tout petit point. Ne passons pas du Club Med à la conférence. Dans nos exemples, comme vous le faisiez tout à l'heure, en toute amitié, mais il n'y a pas que des conférences dans les villages de vacances et que de la Boostify et de la Feitoy dans les Club Med. Il y a aussi une manière de faire la fête qui peut exister et qui soit une manière respectueuse des uns et des autres dans l'approche que chacun peut en avoir.
Rodolphe Christin, vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, vous disiez que peut-être être assez sceptique sur l'idée que le fait de partir en vacances puisse être une occasion de rencontrer l'autre. Jean-Carl Deschamps en parlait à nouveau à l'instant. Est-ce que vous pourriez simplement nous redire un peu en quoi est-ce que de quoi se nourrit ce scepticisme sur la possibilité de connaître le territoire, de faire des rencontres, de s'ouvrir à l'occasion d'un départ en vacances?
Disons que lorsqu'on réfléchit au phénomène touristique, il y a le sujet du tourisme qui est le touriste, avec le sens qu'il donne à sa pratique, les motivations qui sont les siennes et qui le poussent au départ. Et puis il y a aussi le phénomène touristique qui repose quand même sur une espèce de mise en ordre du monde à des fins touristiques, c'est-à-dire à des fins d'accueil qui est souvent centré quand même sur la consommation, la mise en consommation d'une certaine réalité qui est organisée selon des finalités touristiques et qui tend de plus en plus, parce que elle a une emprise sur les territoires extrêmement forte, parce que la question du tourisme est une question centrale lorsqu'on parle du développement des territoires, et qu'aujourd'hui il y a peu d'espace qui échappe aux mailles de la touristification du monde, pour ainsi dire. Et du coup, on est souvent il y a un système touristique qui pilote les flux, qui gère les flux, et là où on pourrait imaginer de la découverte, de la spontanéité, des échanges un peu libres entre le visiteur et le visité, en fait, se substitue à une espèce de maillage de prestations de services où, bien souvent, les relations qu'on a avec les gens du lieu sont des relations d'abord commerciales. Et c'est aussi pourquoi la question économique est centrale, lorsqu'on entend des gens parler de tourisme. Mais il y a aussi tout un tourisme qui est un tourisme alors peut-être plus individuel, plus individualiste, sans doute minoritaire aujourd'hui, mais qui est un tourisme de routard, alors qui est en même temps traditionnel, mais qui est un tourisme de routard dont les grandes figures mythologiques étaient les Jack Kerouac, et puis plus loin, un peu sur un mode un peu différent, mais Nicolas Bouvier, qui étaient des individus qui partaient pour découvrir le monde et qui ne savaient plus tellement comment ils allaient revenir, pour ainsi dire, et qui sont, alors un peu dans la logique de la distinction, qui sont un peu des figures emblématiques du voyage, mais qui en même temps, parce qu'ils voyageaient pour le plaisir, ont partie liée aussi au phénomène touristique. Mais aujourd'hui, les voyages qu'ils ont faits seraient beaucoup plus compliqués à faire parce que très rapidement, on se confronterait à une réalité touristifiée. Donc moi, j'appelle aussi à réfléchir sur les infrastructures qu'on met en place, y compris les villages de vacances, qu'on met en place dans à peu près tous les territoires pour accueillir et finalement canaliser la population touristique.
Sylvain Patieu.
Non, mais peut-être Rodolphe Christin, ça peut s'inscrire aussi dans une idéal de société où on travaillerait moins, où il y aurait moins de temps de travail et plus de temps justement pour la découverte, le voyage. Mais c'est vrai que dans les conditions actuelles de vie, de travail et tout, c'est difficile d'avoir un temps très long pour voyager. Je voulais simplement revenir sur quelque chose sur l'entre-soi, parce qu'on critique beaucoup l'entre-soi. Mais des fois, l'entre-soi, c'est aussi quelque chose qui est cherché par les personnes qui partent en vacances. On a vu du côté des élites qu'il y avait une volonté de distinction. Mais du côté des gens des milieux populaires, il y a aussi l'idée de se dire, en vacances, on peut se relâcher. On n'a pas envie d'être jugé, on n'a pas envie d'être observé, on n'a pas envie de mal faire. Et donc, des fois, dans ce cadre-là, partir entre-soi, c'est aussi ça. C'est aussi s'offrir des espaces où on ne va pas avoir l'impression d'être sous le regard des autres et d'être jugé.
Depuis 5 ans, Arnaud et David viennent des Ardennes avec leurs familles respectives et passent leurs étés face à face dans leur caravane avec en tout une dizaine d'enfants.
Tu veux au foot, toi ?
Et pour tous, pas question de passer des vacances ailleurs.
Regarde-moi, je suis venu ici la première fois, j'avais 4 ans. J'ai 38 ans, je viens encore ici.
Ouais.
Et t'amèneras tes petits-enfants. Voilà. Quand on est ici, moi je passe la barrière là-bas, je change de peau.
Ouais. Hein, ouais. T'es plus le même.
Non, t'es plus le
t'es
même.
T'es moins bête, quoi.
Voilà.
Oh, ça se voit, ça se voit quand même.
Moins stressé, déjà.
Moins stressé.
Ah ouais.
Hein?
Moins gueuleur.
Moins gueuleur.
On a lâché nos routines habituelles.
Ouais, voilà.
Le ménage, le repassage, le...
Le train-train de la vie, quoi.
Dès qu'on rentre, je pense déjà qu'au mois de janvier, je réserve pour juillet.
Et 15 jours, c'est pas grand-chose dans une vie, 15 jours. Hein. C'est pas grand. Mais on s'en rappelle toute l'année. Et des fois, on a un coup de blues au boulot. T'as un coup de blues au boulot, t'en as mort. Oh, tu penses aux vacances, tac, t'es parti.
Ouais, tu dis...
De toute manière, nous travaillons pour ça, nous, hein.
Bon, Jean-Carl Deschamps, vous allez me dire encore que c'est un extrait peut-être un petit peu caricatural. Le reportage, c'est un reportage d'M6 pour Zone Interdite, diffusé en juin 2018. Ça se passe au camping de Palavas, les Flots. On l'a choisi parce que le camping, c'est peut-être aussi dans l'imaginaire collectif une pratique touristique qui est une pratique populaire.
Oui. Je ne vais pas vous dire que c'est caricatural, parce que je pense que tout est dit dans ce. Enfin, il y a tout, il y a la ressource, finalement le lieu, bon, on se recrée sa propre sécurité en venant dans un endroit que finalement on connaît, qu'on a apprivoisé, on restructure des relations, mais on ne fait plus le ménage, on n'a plus le repassage. Enfin, je veux dire pas, c'est on se libère, on se lâche, comme l'on dit, c'est une autre vie. Alors oui, le camping dans l'imaginaire populaire, et touristique, ça fait partie effectivement des sujets de base. On se souvient de ces images de 36, des ouvriers qui partaient en tandem et qui allaient camper à droite ou à gauche. Ça fait partie effectivement de cela. Je crois que le camping a beaucoup évolué. Alors il existe dans les villages de vacances associatifs que je représente aujourd'hui un certain nombre de campings qui se font, mais l'hôtellerie de plein air, d'ailleurs le camping est devenu de l'hôtellerie de plein air, est souvent passé dans les sites très très touristiques dont on parlait tout à l'heure, de la tente au mobil-home et au mobil-home de grande qualité qui finalement en termes de coûts sont aussi excluants que l'hôtellerie tout court. Donc le camping ne veut pas dire aujourd'hui quelque chose d'obligatoirement populaire. Pour autant, c'est encore dans beaucoup d'endroits en France un mode d'hébergement accessible au plus grand nombre. Ça reste un mode d'hébergement accessible au plus grand nombre. C'est pour ça d'ailleurs que les associations continuent à en gérer. Je pense à des structures qui ne font que ça. Je pense à la GCU par exemple, qui gère des campings en France.
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, vous diriez les uns les autres, une culture populaire du tourisme? Quand je dis culture populaire, justement peut-être au-delà des structures dont on a parlé, les structures d'encadrement, les syndicats, les associations d'éducation populaire. C'est aussi pour ça qu'on a passé une archive de camping. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des pratiques, des lieux en France, des fois on pense à des lieux emblématiques comme, je ne sais pas, Palavas-les-Flots en l'occurrence. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment encore une culture populaire et à quoi on la reconnaît, Sylvain Patieu?
Pour moi, il n'y a pas une culture populaire, il y a des cultures populaires. Il y a ça, il y a le camping, il y a le retour au bled. Il y a beaucoup de familles populaires qui sont d'origine immigrée en France, donc le retour au bled, ça peut être aller en vacances en Algérie. Jennifer Bidet a travaillé là-dessus, par exemple. Elle montre comment il peut y avoir là aussi des logiques de distinction chez ces touristes. Mais ça peut être aussi pour les personnes qui viennent d'outre-mer aussi. Alors, on appelle pas ça le bled, mais rentrer au pays, rentrer dans son département d'origine. Donc, il y a les congés bonifiés, par exemple, hein, qui existent encore. Donc, il y a toutes sortes de manières de partir en vacances pour les personnes des milieux populaires. Et ça dépend aussi, comme pour les autres, ça dépend des générations. Hein. Il y a des jeunes qui vont partir avec des compagnies low cost. Et puis, il y a des personnes plus âgées qui vont peut-être aller plus facilement au camping. Ça dépend aussi beaucoup de la famille. Quand on passe le cap de fonder une famille, ben là, d'un point de vue économique, on revient sur la question
financière. Rodolphe Christin, vous, dans vos travaux et puis dans des interviews que vous avez pu donner, vous êtes assez critique sur ce que vous appelez le tourisme de masse. Je voulais savoir s'il y a un lien pour vous entre le tourisme populaire et le tourisme de masse.
Disons que pour moi, le tourisme de masse, c'est le tourisme de consommation. Donc, c'est le tourisme de ceux qui ont les moyens de consommer et de partir en vacances. C'est ce qu'on disait au départ. Hein. Je sais pas si le tourisme est devenu de plus en plus populaire. J'en suis pas certain parce que l'autre fois je lisais un chercheur qui disait que tout type de vacances confondues, le budget moyen dépensé pour ces vacances justement était de l'ordre de 2000 euros. C'est quand même beaucoup. Je pense que tout le monde n'a pas les moyens, en tout cas toutes les classes populaires. Alors après, il faudrait savoir ce qu'on appelle classe populaire, mais je suis pas certain que toutes les classes populaires aient les moyens de payer 2000 euros pour leur loisir. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a 40% de la population française qui ne part pas en vacances. C'est peut-être eux, finalement, les représentants aujourd'hui des classes populaires, et ceux-là ne partent pas. Par contre, ils ont des pratiques de loisirs de proximité qui ne rentrent pas dans la définition officielle du tourisme parce que, nous dit-on, il faut passer au moins une nuitée à l'extérieur de son domicile, mais qui néanmoins vont pique-niquer au bord des lacs, vont, alors moi j'habite dans la région grenobloise, donc c'est un point d'observation un peu privilégié, mais vont en montagne pour passer la demi-journée avec leurs enfants, leurs conjoints en famille ou pas. Et ça, c'est sans doute un aspect d'un loisir géographique de proximité qui est populaire avant tous les autres, je pense.
Il y a un loisir populaire qui passe en dessous des radars, Jean-Carl Deschamps, qu'on n'arrive pas à voir, à quantifier, puisqu'on est trop focalisé sur l'idée du départ et d'aller passer une nuit, voire plus, en dehors de son foyer.
On est focalisé sur le droit aux vacances. Et le droit aux vacances, c'est...
À juste titre ou pas ?
Bien sûr, à juste titre. Et le droit aux vacances, c'est le droit de rester chez soi et d'aller à la plage ou à la montagne si on est à proximité. Mais c'est aussi le droit de pouvoir aller découvrir l'ailleurs. La richesse dans une société, c'est l'autre. Et quand je rencontre l'autre, il m'apporte quelque chose, mais je lui apporte aussi quelque chose.
Vous ne pensez pas comme ce que disait Rodolphe Christin, de dire on peut aussi avoir une pratique de loisir près de chez soi, d'aller pique-niquer, pas très loin, de revenir ensuite.
Je pense qu'on peut avoir une pratique de loisir. Il y a d'ailleurs des pratiques qui se développent aujourd'hui, qui sont l'éducation, à mon avis, l'éducation populaire. Je pense par exemple à ces personnes qui proposent de faire visiter leur ville ou leur région gratuitement. Ça fait partie du partage aussi. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne faudrait pas faire croire que rester chez soi est un objectif en soi, si ça n'est pas d'abord un choix. Les 40% de Français qui ne partent pas ne peuvent pas être le maître étalon de ce qu'il faudrait faire. Si ceux qui partent souhaitent rester, c'est très bien, peut-être. Encore faut-il organiser la société pour que ceux qui ne peuvent pas partir puissent le faire.
Le tourisme, un droit, un choix, une discussion peut-être à poursuivre un autre été, un autre grain à moudre d'été. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à la discussion. Merci Sylvain Patieu, je rappelle maître de conférence en histoire à l'université Paris 8. Merci à vous Rodolphe Christin, vous étiez avec nous ce soir par téléphone. Et merci à vous Jean-Carl Deschamps, secrétaire général adjoint de la Ligue de l'enseignement. Du grain à moudre d'été, une émission préparée par Coppelia Menardi, Imen Mélaz, Laila Saïdi, Isolde Sicard et Marine Lerouge. Réalisation Alexandra Longuet. Prise de son ce soir, Kevin Boisseau et Alexandre Dang. Les références, les ouvrages, les infos, je n'ai pas pu reciter tous vos ouvrages, on les trouvera sur le site de France Culture, à la page Du grain à moudre d'été, avec bien sûr les liens pour la réécoute et le podcast. On se retrouve lundi à 18h15 pour parler de la situation des maires de France, les maires, MAIRES, je précise. En attendant, bon week-end.